Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Nicole Gibeault.
Une chronique judiciaire.
Madame la juge.
On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
La rencontre, Gibeault-Trisac.
Nicole, bonjour.
Bonjour Benoît.
C'est le fun avec toi parce que c'est toujours des bonnes nouvelles, c'est toujours des bonnes histoires. C'est on va y arriver, hein, on va passer à travers. Coach, le accusé de l'heure, il va rester détenu. Hein?
Oui, ben ça c'est probablement pour bien du monde une bonne nouvelle,
ouais,
même
hein?
Si c'est dans le contexte judiciaire. Malheureusement, c'est encore une fois un entraîneur au sein de l'Association de soccer de Québec qui faisait l'objet au début de 25 chefs d'accusation de production de pornographie juvénile, de leurre, etc. Ils en ont ajouté 30. Il est rendu à 55.
Oh.
Alors, 55 chefs d'accusation pour cette personne-là. Et évidemment, la couronne s'était objectée à la remise en liberté. Et là, effectivement, le juge de la Sablonnière a décidé de le garder en dedans. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'un public, souvent on entend la phrase contraire. Mais lui, dans ces circonstances-là, avec les faits qui lui ont été exposés à l'enquête sur remise en liberté, il estime qu'un public bien informé aurait eu bien de la difficulté à comprendre une décision contraire et de le laisser en liberté. Alors voilà une décision qui probablement va faire l'affaire de bien du monde qui sont impliqués dans ce dossier-là, malheureusement. À titre de victime alléguée. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de monde, 55 chefs d'accusation. Il y en a de toutes sortes, hein. Production de pornographie juvénile, leurre. Exhiber ses organes génitaux devant des personnes de moins de 16 ans. Et c'est bon. Alors, puis probablement qu'il y a plusieurs personnes, donc on les multiplie par le nombre de personnes. Alors, quand on parle de mineurs, c'est toujours assez...
Est-ce que, Nicole, une niaiserie, là, comme question, mais de moins de 16 ans, c'est pas de moins de 18 ans?
Non, de moins de 16 ans, sont mineurs. Ben, c'est-à-dire que, là, dans les... Oui, c'est de moins de 18 ans, mais dans les circonstances ici,
okay,
ça serait des mineurs de moins de 16 ans.
Okay,
je pense qu'on les a identifiés de la sorte.
Okay.
Alors, ce monsieur sera traduit devant les tribunaux, mais tu sais, ça peut être... assez long ou ça peut être assez court parce qu'à un moment donné, lorsque la preuve va lui être divulguée au complet, j'imagine qu'on pourra régler le dossier. Il y en a qui préfèrent le faire, il y en a qui préfèrent un procès, on ne sait pas.
Ouais, alors tout le monde va être très heureux de cette décision, sauf Félix-Antoine Bédard, évidemment, lui-même. Hein? C'est bien plate, mais c'est comme ça. Bon, un autre cas de non-criminellement responsable.
Oui, mais je trouve important d'en discuter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours... On a souvent l'impression que c'est des batailles d'experts et que c'est comme ça. Puis dans ce dossier-là, et que le tribunal ou le jury va décider en faveur d'un expert ou d'autre, c'est pas le cas ici. Alors, dans ce dossier-là, c'est très particulier, mais il y a plusieurs autres choses qui sont impliqués dans ce dossier-là. D'abord, c'est une situation terriblement triste. Il y a quelqu'un qui a perdu la vie parce que son voisin, Jacques Côté, qui a perdu la vie aux mains de Kim Lebel par arme blanche. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est que lorsque on connaît le contexte, c'est que c'est un individu, Kim Lebel, qui depuis l'âge de 4 ans, est malade. Il fait face à une situation de maladie mentale sérieuse. Ses parents font tout. Ils ont tout fait. Puis tu vas comprendre pourquoi je vais arriver à discuter d'autres choses qui est connexe à ce dossier-là, puis important. C'est que la journée du drame, deux jours avant ce drame-là, ses parents qui font tout, qui ont tout fait dans leur vie pour leur enfant, évidemment, ils ont tenté de le faire arrêter, traduire. Ils ont appelé la police. Il y avait des comportements très, très bizarres. Il y avait peur que quelque chose arrive. Les policiers ne sont pas intervenus. J'y reviendrai dans deux secondes.
Okay.
Les policiers n'interviennent pas pour X nombre de motifs. qui va probablement faire l'objet d'une enquête, là. Qui a fait l'objet d'une enquête, mais on parle d'une enquête du BEI, mais là, on va probablement parler de poursuites judiciaires civiles. Pourquoi? Parce que le jour même du drame, les parents ont obtenu une requête pour examen, une ordonnance, parce que ça vient, c'est le tribunal qui ordonne que l'individu, Kim Lebel, fasse l'objet d'un examen psychiatrique. Ben, ils ont pas exécuté l'ordonnance rapidement. Alors, les parents se sont rendus au poste de police, apparemment, ben ça, c'est ce que je comprends, là, je résume le contexte. Et les parents seraient rendus puis auraient dit, écoutez, c'est urgent, faut absolument venir chercher notre fils. On a l'ordonnance dans les mains. Ça peut pas être plus clair. La cour ordonne que de l'amener à l'hôpital psychiatrique. Pour des raisons qu'on va probablement connaître plus tard, ils l'ont pas fait immédiatement. Quand ils reviennent à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ben, devant eux, il se passe ce drame et leur fils est en train de donner des coups de couteau puis d'assassiner clairement le voisin. Et je pense que le père a dû intervenir avec son véhicule pour pousser son propre fils.
Oui.
C'est assez tragique là, comme situation. C'est parce que c'est des parents qui ont tout fait pour essayer d'intervenir pour éviter un drame, malheureusement, qui s'est... Donc, c'est sûr que en ce moment, ils sont un peu outré de voir que le BEI n'a pas recommandé des poursuites, mais une poursuite criminelle, c'est très, très différent. Est-ce que le DPCP a décidé de ne pas poursuivre les policiers? Mais ça, c'est au criminel. C'est très, très différent comme preuve. Le fardeau de preuve est nettement et clairement différent. Et par contre, ils envisagent, et probablement qu'ils vont le faire, et là, on verra, une poursuite au civil. Pourquoi n'ont-ils pas agi la première fois, mais surtout la deuxième, rapidement, lorsqu'ils avaient une ordonnance pour l'amener, Kim Lebel, à l'Institut psychiatrique le plus rapidement possible pour subir un examen. On parle de quelques heures qui auraient pu sauver la vie probablement de Jacques Côté, on s'entend là. Alors, ces parents-là sont bouleversés, non seulement pour leur fils, mais ils sont arrivés sur les lieux, voient leur fils en train de faire ce geste irréparable, puis il faisait tout là, pour l'empêcher, puis essayer de le contraindre, puis d'essayer de l'amener à l'hôpital. Alors, c'est vraiment extrêmement...
Mais là, excuse-moi, tragique. Nicole, mais on parle pas beaucoup de la victime là-dedans, là.
Oui, on parle de M. Côté, qu'on a dit au début, on l'a nommé en premier.
Non, je comprends, mais la...
Jacques Côté.
Mais c'est toujours bien lui qui a été assassiné, est-ce que...
Tout à fait, ça a été lui qui a été assassiné, donc là, on arrive à l'assassiné à coups d'arme blanche par un individu malade, mental, avec des troubles mentaux, en crise épouvantable qu'on a tenté de faire interner. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la couronne part de ses propos et de ses expertises, la défense, tout le monde est d'accord. Il s'agit d'un individu qui était non criminellement responsable. C'est pas, la couronne ne conteste même pas. Il n'y a même pas de question à se poser.
Non, mais la famille de Jacques Côté peut poursuivre la police qui n'est pas intervenue quand les parents de Lebel, l'agresseur, a essayé de les avertir.
J'imagine que toute poursuite civile va être ouverte là, à quiconque voudra développer ce dossier-là au niveau civil.
Hein.
Pourquoi? Parce que ça va être faute, dommage, lien de causalité. C'est assez clair ici là que dans les circonstances, peut-être pas la faute. Ça, la faute, va falloir qu'elle soit déterminée avec l'ensemble de la preuve, le pourquoi, puis on ne sait pas du tout là qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la police n'est pas intervenue rapidement ce matin-là pour sauver la vie à Jacques Côté. Et oui, la famille de Jacques Côté, mais oui, la famille de Kim Lebel qui voit leur fils évidemment, qui a commis l'irréparable, c'est fini, là, lui. Là. Puis, la dernière chose qu'il faut dire dans ce dossier-là qui est important, c'est que fort des informations qu'il est non criminellement responsable, c'est acquis. Là. Tout le monde, la couronne, la défense, le juge, tout le monde, c'est acquis. Dans ce temps-là, il y a une possibilité qui existe pour que la couronne demande qu'il soit déclaré un délinquant à haut risque. Il y a délinquant contrôlé, délinquant dangereux, mais le délinquant à haut risque ne s'applique que pour les personnes qui sont déclarées non criminellement responsables. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la commission pour les troubles mentaux qui vont s'en occuper nécessairement. Mais s'il veut avoir quelques... Il ne pourra pas. C'est très, très rare qu'on laisse sortir même pas 10 minutes, même pas une demi-heure, une personne déclarée à haut risque. avant qu'un tribunal se penche sur ce dossier-là, puis là, ce n'est plus la commission, ce n'est plus l'intervention de quiconque, c'est vraiment des expertises pointues, mais entre-temps, il sera pas capable d'aller à l'extérieur, de faire des visites ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un délinquant à haut risque dans les circonstances.
Bon, et il y a ce André Yel, on va prendre le temps de passer à travers le pédophile de 72 ans qui a du front tout le tour de la tête, lui.
Absolument, et c'est assez inusité comme... c'est-à-dire que du départ, là, il faut que ça soit... on aurait peut-être dû, lorsqu'il y a eu une sentence de 22 mois, on va l'expliquer parce que juste le nom dit rien.
Ouais.
Une sentence de 22 mois à cet homme-là parce que il est accusé d'être en possession de pornographie juvénile. Puis on va aller jusqu'à la bestialité. Moi, j'ai pas voulu lire le détail, ça m'intéresse
c'était
pas.
Mais
c'est vrai que c'était dégradant avec des enfants. Bon. Évidemment, avec des enfants, pornographie juvénile. Donc, il est condamné à 22 mois. Il n'y a pas personne qui a pleuré sur son
corps. Non, mais attends, Nicole, ce que je lis, moi, des images d'enfants de 6 mois à 15 ans.
Oui. C'est pour ça que je dis que c'est tellement dégradant. C'est épouvantable.
Oui.
Alors, de 6 mois à 15 ans, il est en possession de ces images-là. Et, on a évidemment, pour arriver à ça... C'est clair qu'on a fait une perquisition, c'est clair qu'on a saisi un ordinateur, et c'est clair que c'est dans les mains de la justice, cet ordinateur-là. Alors, qu'il ait fait 22 mois, 20 mois, 10 mois, dès le départ, ça a permis l'ordinateur et les vérifications qu'on en a faites, ça a permis de faire le dépôt des accusations par le DPCP. Or, peut-être que c'est un oubli, là, on n'a pas demandé lors de la sentence immédiatement, mais c'est gardé sous clé, là, il n'y a pas personne qui touche à ça, on n'a pas demandé la destruction ou la confiscation de l'ordinateur. Et là, ce monsieur-là, il écrit des livres, lui, sur la loi de l'impôt, puis il y a des informations dans l'ordinateur, apparemment, etc. Donc, il veut avoir son ordinateur. La couronne va s'opposer farouchement, en soi, de demander récupérer un ordinateur pour les fins de son travail, ça va. Mais en matière d'agression, pas d'agression, mais de pornographie, de possession de pornographie juvénile, ce que je lisais, puis ce que j'ai dit, puis que dans différentes entrevues, les experts en cybercriminalité vont dire qu'il y a des petites fenêtres dans les petites fenêtres de la petite fenêtre en cybercriminalité, puis c'est très, très, très complexe d'essayer de voir où c'est caché. L'ordinateur, moi, j'ai trouvé tellement drôle la réaction d'un expert, Jacques Sauvé, qui dit, garde, donnez-y du papier, du crayon, et un vieux dactylo IBM, puis une bouteille de liquid paper, puis qui s'amuse.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça très comique, mais réaliste. Parce que pourquoi redonner? Et sinon, si on le redonne, on m'a demandé est-ce qu'on peut le remettre? Oui, c'est le juge qui va décider. Avec des conditions, oui, c'est toujours le tribunal qui va décider. Mais ça se peut aussi qu'on lui dise, tu vas être assis 24/24, mais tu peux pas toucher à ton ordinateur à moins qu'il y ait un expert en cybercriminalité qui va y aller à chaque
question.
Mais c'est ça que je veux dire.
Ça, faut que
c'est
ça arrête,
ridicule.
Là.
Ça coûte moins cher de s'acheter un ordinateur, du papier puis du liquid paper ou d'en trouver un autre. Mais même à ça, on ne veut pas qu'il ait accès à un ordinateur. Et on comprend qu'il est dans une probation surveillée en ce moment. Fait que la couronne, avec raison, va plaider ceci. Ça a déjà commencé ici, dans le district de Gatineau, vendredi dernier. Ça se continue le 4 juillet. Et on va attendre la décision. On va, pas nous, parce qu'on sera pas en onde,
non,
mais on va
ça.
En reparler.
Mais à 72 ans, là, il a connu l'époque des dactylos. Alors, s'il veut écrire... Oui, c'est ça. Puis on n'est pas intéressé à lire ce qu'il y a à dire, de toute façon.
Non.
Malheureusement. Nicole Gibault, merci. À demain.
À demain. Au revoir.